en regardant bienfaisant, comme le fait Paul, et découvrir les chemins, les pierres d'attente, comme on dit, sont présentes dans le langage des gens. Discours ecclésial et discours missionnaire ne sont pas à mettre exactement sur le même pied. Mais il faut les deux. Et chacun d'entre nous, nous sommes tous aux prises avec un discours missionnaire. Nous avons des gens, que ce soit des collègues, à l'école, au bureau, dans la rue, dans notre profession, nous avons des gens qui ne pigent rien à notre religion, qui ne savent pas ce que Jésus signifie, ce que notre foi signifie, ils ne savent pas. Et il faut les aider à entrer dans une perspective, mais à partir de ce qu'ils peuvent comprendre. C'est pas évident. C'est pas évident.
Paul a dit un mot de trop, c'est le mot résurrection. Donc il a cité ce qu'il y a de plus spécifique de ça. Et on ne sait pas transposer un livre finalement.
Ah non, il faut qu'on en arrive là finalement. Et ça, c'est le point d'impact de la division ou de la foi.
À quelque part, un peu de con. Hein.
Ouais. Ah là, il en arrive là. Mais voyez bien le schéma, hein, c'est le passage d'un discours idéologique à un discours d'histoire. La révélation se fait dans l'histoire. Et la révélation, je ne peux pas arriver à la révélation à partir d'un raisonnement abstrait. Je peux arriver à découvrir la valeur de l'homme à partir d'un raisonnement en grande partie abstrait. Mais dès que j'en arrive à la réalité de la révélation, j'ai l'histoire. Et découvrir que Dieu lui-même entre dans l'histoire de l'homme, c'est vraiment faire le cumul.
Mais les Hébreux eux-mêmes sont partis de faits agrès, cycliques, je dirais de quelque sorte attemporels. Ils ont plaqué l'exode dessus. Et aujourd'hui, on veut faire le chemin inverse.
Le chemin inverse, c'est-à-dire, le chemin inverse est souvent plus difficile à faire. Eux sont partis d'expérience. Et ils ont réfléchi sur une expérience. Et cette expérience a été tout de suite confrontée à des gens qui vivaient un paganisme, hein, que ce soit le paganisme égyptien, puis le paganisme cananéen, puis le paganisme babylonien, c'est-à-dire des valeurs. Et justement, le signe de la révélation, c'est qu'il y a eu un chemin d'unicité de plus en plus grande, ce qu'on appelle le monothéisme, parce que ce monothéisme lui-même a évolué et s'est approfondi. Mais il y a eu donc un progrès dans l'expérience et dans la relecture de cette expérience. Et là, nous avons, je dirais presque, un phylum qui réussit. Dans l'histoire de l'évolution, vous avez différentes, dans les différentes religions, vous avez souvent des points importants. Vous avez, par exemple, avec Akhenaton, par exemple, en Égypte, vous avez un pas qui est fait vers le monothéisme. Et puis, ça ne continue pas. Vous avez avec Nabonide en Mésopotamie, vous avez là aussi une évolution qui va dans le sens d'un Dieu unique. Mais s'il est considéré comme un type qui délire, un mystique, ça ne continue pas. Or, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en Israël que cette marche se continue progressivement dans un approfondissement de plus en plus grand de cette présence divine. Et puisque le Dieu est unique, nous en arrivons, disons, à l'époque de la sagesse, au 5e siècle avant Jésus-Christ, et déjà, à ce moment-là, on essaie de couler dans des mots qui viennent de la philosophie égyptienne ou de la philosophie mésopotamienne, on essaie de couler, précisément, la révélation. C'est ça que le livre de la sagesse essaie de faire. Donc, une réflexion de plus en plus poussée sur l'expérience monothéiste. Mais cette expérience monothéiste aboutit dans la présence de Jésus grâce à cette espérance messianique qui fait son chemin à travers tout cela en Israël. Alors, quand vous voyez sur le plan de l'histoire des religions, on peut être en tout cas étonné de voir une sorte de réussite, de cohérence de cette orientation-là. Ce n'est qu'un signe, ce n'est pas une preuve, ce n'est qu'un signe. La seule preuve, c'est la foi. Et cette foi, et cette preuve, elle est tout à fait pratique.
Comment leur argument essentiel, c'est l'exode, et pas un argument historique, justement.
Oui, mais c'est un argument, c'est l'exode, mais ce n'est pas seulement l'exode, parce qu'il y a eu combien de libérations dans le monde. Mais c'est la relecture de l'exode comme point de départ d'une expérience. Vous voyez ? Et nous vivons de cette expérience-là, c'est toujours la même, il n'y a qu'une révélation. Et donc, ce que nous devons pouvoir percevoir, c'est la cohérence de cette histoire. Ça, c'est un signe. Je ne peux pas faire davantage. Nous arrêtons ici. Je ne sais pas si j'ai pris le TGV, je crois que mon TGV s'est arrêté. Il y a un grand discours missionnaire à Athènes, auquel fait pendant, de l'autre côté, un grand discours de Paul au chapitre 21, que nous allons voir d'ailleurs, qui est en fait un testament. Mais ce discours ici est un discours à l'Église. Ce n'est pas un discours un missionnaire à tout homme, à tout un chacun, comme à Athènes. C'est un discours pour l'Église. Donc le genre littéraire est tout à fait différent ici. Là. Et c'est un peu le sens inverse de ce que nous avions dans le discours des Actes. Le chapitre 17 était consacré au fond à tout un chacun, c'est-à-dire à la destinée personnelle d'un chacun, tandis que le chapitre 21e était plutôt concerné plutôt les sociétés. Et ici, c'est les rencontres des cultures se font non plus des personnes, des individus, mais à travers les vicissitudes des missionnaires, on a des villes qui sont mises en évidence. Alors, je vous ai parlé donc des discours importants de. Enfin, non, des discours des rencontres importantes de Paul avec la ville de Philippe, qui est un peu typologique, avec la ville d'Athènes, qui est également typologique. Ce sont en fait des paraboles. Hein. Le livre des Actes est vraiment un livre de sagesse. C'est un livre de sagesse au sens tout à fait propre du terme. C'est-à-dire qu'il nous parle de la sagesse de Dieu, du dessein de salut de Dieu, du dessein historique de Dieu sur l'humanité, mais à travers la réalité concrète. Et c'est vraiment ça la sagesse en Israël. Et alors, vous avez le passage de Corinthe par Corinthe, qui est, dans un certain sens aussi, typologique. On commence au chapitre 18e, on se retrouve dans la synagogue, et on voit arriver des personnages nouveaux. Ayant quitté Athènes, il vint à Corinthe, ayant trouvé un certain juif du nom de Aquila, originaire du Pont, se trouvant venu récemment d'Italie, et Priscilla, sa femme, voilà un couple, pour la raison que Claudius, Claude, effectivement, se trouvait d'avoir donné comme consigne que tous les Juifs quittent sans cesse Rome. Les Juifs avaient été bannis de Rome, mais de Rome seulement, pas de tout le Latium, de toute l'Italie, comme on dit parfois, mais de Rome seulement, parce qu'il y avait probablement eu du grabuge entre les Juifs. Reste des juifs et des juifs devenus chrétiens, semble-t-il, ce n'est pas tout à fait clair. Et donc, ces gens-là avaient quitté Rome, qui étaient des gens qui étaient fixés à Rome, des juifs qui s'étaient fixés à Rome, avaient quitté Rome. Or, il se trouvait qu'ils étaient fabricants de tentes. C'est ce que faisait également Paul, et donc, ils se retrouvent. Alors, vous retrouver ce que nous avons déjà vu à Lycia, nous retrouvons ce que nous avons déjà vu à Antioche de Pisidie. Or, comme ils se liguaient contre lui, les Juifs, et blasphémaient, ayant vivement secoué ses vêtements, il dit à leur adresse, « Votre sang soit sur votre tête. » C'est-à-dire, porter la responsabilité de ce que vous venez de faire, de votre opposition. Moi, je suis pur. Il reviendra sur le chapitre 20e, précisément. À partir de maintenant, je ferai route vers les nations. Mais on continue toujours à le voir rencontrer les Juifs dans les synagogues. Donc ça ne veut pas dire qu'il coupe tout à fait avec le judaïsme, mais comme je vous le disais, puisqu'il est refusé par une portion du judaïsme, il continue de porter la mission juive dans le monde parmi les païens. Alors, ce qui arrive à Corinthe, à partir du démêlé avec les gens de là-bas, est porté de nouveau au tribunal. Et ici, c'est un point important parce qu'on trouve un personnage qui s'appelle Gallion et que l'on peut situer avec assez de précision dans l'histoire, soit 51-52, soit 50-51. Donc c'est un recoupement pour la vie de Paul qui est intéressant pour nous. Et lui, en se rendant compte de ce dont on parlait, déclare le nom Dieu. Comme Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs, je suis au verset 12, 18-12, les Juifs se soulevèrent contre Paul d'un même cœur et ils le menèrent au tribunal. Ils se soulevèrent contre Paul d'un même cœur comme ils s'étaient soulevés contre Étienne. Disant, celui-ci tente de persuader les hommes à vénérer sans cesse Dieu contre la loi. Alors, comme Paul allait ouvrir sans cesse la bouche, Gallion dit à l'adresse des Juifs, s'il y avait un tort ou une fraude méchante, j'aurais instruit suivant votre plainte. S'il y a discussion au sujet d'une parole, de nom, de la loi de chez vous, vous verrez. Autrement dit, le roi, la loi romaine n'est pas compétente d'une question religieuse. Donc elle n'a rien à dire à ce sujet-là. Moi, je ne veux pas être juge de ceci. Quelle que soit maintenant la moralité de cet homme, Gallion, on dit qu'il était intrigant, sur le plan de la loi, il fait exactement ce qu'il doit faire. Il déclare l'incompétence de la loi. Et il les chassa du tribunal. Donc, deux points importants, la rencontre à Philippe, c'est-à-dire la rencontre de la domination romaine et comment la parole de Dieu libère, rencontre du savoir humain et comment la parole de Dieu essaie de faire percevoir que le véritable savoir, c'est celui que Dieu donne, c'est-à-dire la révélation. Maintenant, nous allons voir le second volet, la parole de Dieu dans nos histoires. Cela, c'est surtout autour de la ville d'Éphèse, entre Corinthe et Éphèse. Éphèse, c'est un point. Un point de chute important. Éphèse, c'était vraiment la métropole de l'Asie mineure. Elle ne se trouvait pas très éloignée de Corinthe, il y avait 500 km en ligne droite entre le port de Corinthe et Éphèse, et on y allait très facilement. Saint Paul lui-même a fait plusieurs fois l'aller-retour pour aller voir ce qui se passait à Corinthe alors qu'il était à Éphèse. Vous savez qu'il y avait aussi des divisions dans l'église de Corinthe, comme nous le dit la première lettre aux Corinthiens. Alors que fait Paul après ceci? Vous le retrouvez à Éphèse. Il va d'abord à Éphèse avec Priscilla et Aquila en question. Il aboutit à Éphèse. Et on en profite pour parler d'un certain personnage qui s'appelle Apollos. Apollos est un juif d'Alexandrie, un homme versé dans les Écritures. Dans les Écritures, en traduction grecque, bien entendu. Et cet homme se trouvait, comme le dit le texte, chapitre 18, verset 25, renseigné sur le chemin du Seigneur et bouillonnant de l'esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Certains auteurs, et notamment le père Fanois, se demandent si ce n'est pas cet Apollos qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ça correspondrait assez bien à ce qu'on dit de lui. Celui-ci commença à parler avec assurance dans la synagogue. Or Priscilla et Aquilas, l'ayant entendu, le prirent auprès d'eux et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Il y a pas mal d'articles qui se sont demandés, mais qu'est-ce qu'ils ne savaient pas assez, hein, qu'ils ne connaissaient pas. Il semble qu'ils connaissaient bien la vie de Jésus, mais qu'ils ne percevaient pas exactement le rôle de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, Apollos vient dans cette église, et il arriva, pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paul, ayant traversé l'intérieur, vint à Éphèse et trouva certains disciples. Il dit à leur adresse, « Est-ce que vous avez reçu un Esprit Saint lorsque vous avez cru ?» Et eux disent, mais nous ne savons même pas qu'il existe un Esprit Saint. Nous n'entendîmes même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Et il lui dit, en quoi donc avez-vous été baptisé? Et il lui dit, mais dans le baptême de Jean. Et donc on en a conclu qu'il y avait vraisemblablement passé à Éphèse, c'est tout à fait plausible, des disciples de Jean-Baptiste, qu'on appelle parfois Johannite, mais on ne sait pas par ailleurs si c'est. S'il y a eu vraiment des sectes qui se sont appelées Johannes, qu'on aurait retrouvé à Éphèse et qui aurait été, qui serait parti de Jérusalem et aurait missionné à Éphèse enseignant le baptême de Jean, le baptême de conversion. Mais en même temps, Paul rappelle Jean, comme Pierre a toujours fait, rappeler Jean-Baptiste, pour toujours bien montrer la continuité avec l'Ancien Testament. Or, Paul dit, Jean baptisa d'un baptême de conversion, en disant au peuple qu'il croit en celui qui vient après lui, c'est-à-dire en Jésus, et ayant entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, pas du baptême de Jean, au baptême du Seigneur Jésus, et comme Paul leur avait imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Or, tous ces hommes étaient environ 12. Et si on est en train de nous raconter la Pentecôte d'Éphèse. On va vraiment de Pentecôte en Pentecôte. De nouveau, on retrouve 12, et on retrouve des gens qui prophétisent. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Il veut nous dire que la fondation de l'Église d'Éphèse est authentique. Elle est du même type. Donc, c'est vraiment le même processus. Même si les lieux sont différents, même si on va de ville en ville, et même si les circonstances ne sont plus les mêmes, c'est toujours la même église qui se transforme. C'est toujours le même Esprit Saint, et c'est toujours le même Jésus ressuscité. Et puis vous avez la proclamation du royaume en Asie, je ne descends pas dans les détails, je ne reprends pas le texte. Et là, nous retrouvons, comme la plupart du temps, une opposition entre l'impact de cette parole et, je dirais, les religions populaires. Nous avons déjà vu des magiciens. Nous avons ici aussi des gens qui ont des magiciens, et vous avez beaucoup de livres de magie. On s'est demandé si Luc ne fait pas allusion à quelque chose que l'on sait par ailleurs, ce qu'on appelle les Ephésina Grammata, c'est-à-dire des paroles magiques dont on a découvert dans des fouilles archéologiques, on a découvert plusieurs traces. En tout cas, ce qui est dit simplement ici, au chapitre 19e, c'est peut-être allusion à cela. Ceci arriva, donc, connu de tous les juifs ainsi que des chrétiens dans l'Éphèse, et une crainte tomba sur eux tous. Une altercation avec des exorcistes juifs. Une crainte tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié, et beaucoup de ceux qui se trouvaient croire venaient, confessant et dénonçant leurs agissements, c'est-à-dire leurs pratiques superstitieuses. Bon nombre de ceux qui avaient agi par des pratiques magiques apportaient leurs livres de magie, les consumaient en présence de tous, donc on fait un immense auto-da-fé, et ils comptaient ensemble leur prix, prix de tous ces livres. Et ils trouvaient 5 fois 10 000 pièces d'argent. Donc, de nouveau, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Mais qu'il y a une opposition, de nouveau les effets secondaires de la parole, une opposition entre la prédication de Jésus ressuscité dans l'Esprit Saint et toute cette magie dont la ville d'Éphèse ne s'est pas encore dépêtrée. Et ceci introduit évidemment la situation d'Éphèse et une question d'argent qui va être mise en évidence. Donc je parle d'Éphèse et je parle d'un livre de magie. Puis nous allons avoir affaire aux orfèvres. Et alors qu'ils sont restés certainement plus de 2 ans à Éphèse, on ne nous raconte que cela de la fondation de l'église d'Éphèse. Donc ce que Paul retient, c'est l'impact de la parole sur la réalité matérielle, sur la voie. Et cette réalité matérielle est beaucoup trop mêlée à la religion. Effectivement, vous aviez à Éphèse un temple extrêmement important qui attirait des pèlerins de partout, de l'Asie mineure et même du continent. Et ce temple était édifié en l'honneur d'Artémis. Artémis symbolisait la fécondité. Effectivement, on a retrouvé plusieurs, donc deux grandes statues importantes, de grandes statues de cette ce prototype qui était tombé du ciel, une statue tombée du ciel, suivant la légende, et qu'on venait adorer de toutes parts, qui était une statue en bois au départ, et on en a découvert donc des répliques, on fabriquait des répliques de cette statue, et cette déesse est représentée avec des seins multiples pour exprimer l'idée, certains disent des œufs, mais c'est exactement la même symbolique, pour symboliser la fécondité. Donc c'est à la fois l'idée de la femme, la maternité et la fécondité qui apparaît à travers cette déesse Artémis, statue tombée du ciel. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Parce que cette statue tombée du ciel dit déjà d'une manière très populaire, très fruste encore, qu'au fond, la fécondité vient de Dieu. Des dieux, si vous voulez, de la divinité. C'est comme une participation, peut-être au grand cosmos, mais à une vie qui dépasse l'homme. Et donc, il y a déjà comme un point de départ. Comme saint Paul le disait à propos des gens d'Athènes, il y a comme des pierres d'attente. Mais voilà ce que Paul prêche quand il parle de la résurrection, menace en quelque sorte ce culte, non pas le culte lui-même dans ce qu'il a fait profond, mais menace bon, tout le commerce que l'on fait, les marchands du temple, comme on dit, hein, tout le commerce que l'on fait autour de ce culte. Effectivement, les orfèvres d'Éphèse, ceux d'aujourd'hui encore, hein, gagnent leur vie en fabriquant des petites statuettes de la déesse tombée du ciel et des petits temples. Il ne reste plus qu'une colonne. Ce temple a entièrement disparu. Il ne reste plus qu'une colonne. Et ce que Saint-Luc nous raconte ici, c'est de ce qui s'est passé à propos de la revendication des orfèvres, qui pensent qu'ils vont perdre leur travail, qu'ils vont être réduits au chômage. Donc ils sont menacés, ils se sentent menacés. Un certain du nom de Démétrios, chapitre 19, verset 24, un orfèvre, faisant des sanctuaires d'Artémis en argent, procurait non peu de profit aux artistes. Donc le syndicat des orfèvres. Et le syndicat des orfèvres fait une monte une grande manif contre Paul. On sent bien que ce n'est pas seulement contre Paul, c'est contre cette organisation du christianisme qui est déjà en train de prendre dans la vie. Et alors, ils se promènent à travers la ville, ils font la grande manif jusqu'au théâtre. Et là, il y a de nouveau, vous voyez, ils scandent, dans une manif qui se respecte, rendez l'Artémis des Éphésiens, rendez l'Artémis des Éphésiens. Il nous décrit cela, c'est haut en couleur, bien entendu, c'est très bien écrit, mais nous aimerions savoir d'autres traits de la fondation de l'église de Corinthe, d'Éphèse, nous sommes frustrés. Mais il nous donne donc, d'une part, le discours du fameux Démétrios, le syndicat des orfèvres, et un magistrat qui se dit tout ça va mal tourner, il ne faut pas de glabuche dans la ville. De nouveau, c'est le droit romain qui est installé dans la ville, qui va prendre position. Entre Éphésiens, qui, dites-moi, y a-t-il parmi les hommes qui ne connaissent que la ville des Éphésiens et la gardienne sacrée de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? Ça, c'est clair. On ne met pas ça en question. Ceci étant donc incontestable, il vous faut, il parle comme s'il connaissait le saint salut de Dieu, il vous faut être sans cesse contenu et ne rien agir de précipité. Car vous m'avez amené ces hommes, ni comme des pilleurs de temple, ni comme blasphémant notre déesse. Ils ne nous disent rien, ces gens. Autrement dit, vous vous en faites trop vite. Si donc Démétrios et les artisans qui sont avec lui ont une action contre quelqu'un, des audiences habituelles à la place publique sont menées. Il y a un droit. Allez-y. Il y a des proconsuls, ici ce sont les proconsuls, ce ne sont plus des stratèges. Qu'ils se mettent sans cesse en cause les uns les autres. Or, si vous recherchez quelque chose plus loin, s'il y a autre chose là-dedans, bien sûr qu'il y a autre chose là-dedans, cela sera expliqué dans l'Assemblée illégale. Car en effet, nous sommes en péril d'être mis en cause pour une émeute au sujet de celle d'aujourd'hui, comme il n'est aucun motif au sujet duquel nous pourrons rendre compte à propos de cette manifestation. Et ceci dit, il conjugue à la santé. Qu'est-ce que Paul veut nous dire à travers cela? C'est vrai qu'il y a un impact de la parole sur la vie civile, sur la vie publique. Mais en fait, si vous regardez bien, il y a parfois fouetté un chat. C'est-à-dire que la parole n'attaque pas de plein fouet la réalité concrète et ne veut pas vraiment enlever le gagne-pain aux artisans. Ce n'est pas le but de la parole. Elle se trouve à un autre niveau. Et vous voyez, de même qu'à Corinthe, le magistrat a dit il y a non-lieu, moi je ne suis pas capable de juger d'une question de loi d'une religion particulière. Ici, il nous dit mais regardez les choses en face et voyez que vraiment, dans ce que prêchent Paul et les autres, il n'y a pas de véritable opposition. C'est vous qui fabriquez l'opposition. C'est intéressant de nous montrer comment Luc essaie de nous faire percevoir que la parole se situe à un autre niveau, même si elle rencontre les gens dans leur réalité concrète. Donc, il fait en quelque sorte un quart de fois un peu plus que celui qu'il avait fait ici. Après qu'il eut cessé le tumulte, Paul ayant envoyé, c'est au début du chapitre 20, ayant envoyé chercher les disciples, les ayant conjurés, les ayant salués, sortit pour faire la Macédoine. Et voyez que en aucun endroit, il ne se cramponne. Il y a une difficulté, on s'en va et on continue le parcours. On ne s'acharne pas. On ne veut pas vraiment l'opposition pour elle-même. Or, ayant traversé, les ayant conjurés par une parole longue, ils vint vers la Grèce. Et là, on raconte, c'est un événement assez important. Donc, il repasse, et cela on le voit très souvent, il repasse par les régions qu'il a évangélisées. Donc, affermir les communautés, repasser par les endroits évangélisés, c'est la tâche des fondateurs. Il arriva, David, verset 3, de retourner vers la Macédoine, par la Macédoine. Or, l'accompagnait Sopater, fils de Pyrrhus de Bérée, les Thessaloniciens Aristarque et Secundus, et Gaius de Derbé et Timothée, et les Asiates Tychique et Trophime, 7, et des gens qui viennent des différentes communautés qu'il a évangélisées. C'est comme une sorte de petite église, si vous voulez, qu'il amène avec lui. Ce sont les témoins de la parole dans un milieu grec. Et ceci étant venu par devant, nous attendait à Troas. Donc il repasse par Troas. Et nous de Philippe, nous prîmes le large après les jours des azimes. On se retrouve de nouveau en contexte pascal. Et ici c'est après les jours des azimes. Donc on se trouve entre Pâques et Pentecôte. Et nous vîmes auprès d'eux, après 5 jours, à Troas, et nous passâmes 7 jours, c'est précis. Donc on voit bien que le « nous » signifie quand même quelque chose de précis, un témoin quelque part. Or, le premier jour de la semaine, comme nous nous trouvions assemblés pour rompre le pain, l'Eucharistie dominicale, dirions-nous aujourd'hui, Paul dialoguait avec eux, allant venir dehors le lendemain, il allait partir le lendemain, donc, et prolonge un peu la dernière Eucharistie avec lui. Et il prolongea la parole jusqu'à minuit. Or, il y avait de nombreux flambeaux dans la chambre haute, on se trouve dans une chambre haute, où nous étions, nous trouvant assemblés. Or, un certain garçon du nom d'Eutyque, qui veut dire bonne fortune, Eutyque, étant assis sur la fenêtre, étant porté en bas par un sommeil profond, hein, vous voyez.
Il ne doit pas s'inscrire aux sessions.
Non. En tout cas, il ne doit pas se mettre sur le bon. Comme Paul dialoguait plus longtemps, ayant été porté en bas à cause du sommeil, on le voit bien, il tomba du 3e étage en bas et fut enlevé. Mort.
Il y a des maisons avec beaucoup d'étages.
Pardon ?
Il y a des maisons.
Ah oui, maisons étaient. Oui, ces maisons étaient assez hautes. On en a trouvé d'ailleurs, à Éphèse comme ailleurs, et étant porté donc. Il tomba du 3e étage en bas et fut enlevé. Quand on dit 3e étage, il n'y a pas de rez-de-chaussée, hein. Le rez-de-chaussée c'est le premier étage, 1, 2, 3. Or Paul étant descendu, tomba sur lui, et l'ayant enlacé, dit: ne faites pas de tumulte sans cesse, car son âme est en lui. Avec le fils de la veuve. Et étant monté et ayant rompu le pain, l'Eucharistie, et ayant goûté une collation, ainsi qu'ayant discouru à suffisance jusqu'à la lumière du jour, il sortit ainsi. Donc il continue. Or, ils ramenèrent l'enfant serviteur vivant. Donc c'est une manière justement de dire la résurrection est présente dans la communauté. Bien sûr que s'il nous raconte l'histoire, s'il nous donne un nom propre, c'est que ce garçon, il est arrivé certainement comme à Paul lui-même, On l'avait trouvé mort et il s'est remis debout. Hein. Il fut réconforté, non avec une leçon. Or nous, étant venus par devant sur le bateau, nous fûmes conduits sur Assos, allant de là reprendre Paul, car il se trouvait d'avoir donné comme consigne qu'il allait avoir voyagé à pied, on pouvait le reprendre là. Et comme il nous avait rencontrés à Assos, l'ayant repris, nous avons un ami qui venait, nous étant pas partis de là le lendemain, nous avons dit directement à Kyr, et ça va bien, tout va bien. Or le surlendemain, nous dirigeons vers Samos, le jour suivant, nous avons un ami. Car Paul se trouvait avoir jugé bon de naviguer au large d'Éphèse, donc il ne retourne plus à Éphèse, sans doute pour ne pas devoir rester trop longtemps, de façon qu'il ne lui arrive pas de perdre du temps. Voilà, tout d'un coup, il est pressé, le prendre. Alors qu'il a pris le temps un peu partout, il s'est attardé 300 d'un côté, 200 de l'autre, et maintenant il est pressé. Bon, hein. Car il se hâtait pour voir s'il lui serait possible d'arriver à Jérusalem le jour de la Pentecôte. On revient d'où on était parti. On était parti de Jérusalem un jour de Pentecôte, et bien on va revenir à Jérusalem un jour. C'est Paul, c'est Paul. Et il revient avec sept compagnons, indiquant comme les prémices de l'œuvre qui s'est faite en territoire païen. Et alors ici, c'est là que vous voulez enfin arriver, évidemment, c'est le fameux testament de Paul. Nous sommes ici sur la plage de Milet, ce sont quand même des gens d'Éphèse, mais l'endroit, c'est la plage de Milet. Tout près du théâtre de Milet. La mer venait de deux côtés, tout près de Milet. Aujourd'hui, il y a un état, ça fait 20 km plus loin, 8 km, pas plus loin. Donc, parce que les alluvions ont rempli tout le delta. Après Milet, ayant mandé à Éphèse, il rappela les anciens de l'Église. Or, comme ils s'étaient rendus auprès de lui, il leur dit, « Vous, vous avez connaissance, il ne dit plus en athénien, tout ça, vous avez connaissance depuis le premier jour, depuis lequel je mis les pieds en Asie, comment je me comportais avec vous. » Et donc ceci est important parce que c'est pas seulement les paroles que j'ai dites qui sont essentielles, c'est la manière dont je me suis comporté. Pendant tout le temps, étant au service du Seigneur avec toute humilité et des larmes et des tentations qui se sont passées pour moi dans les complots des Juifs. On ne raconte pas grand-chose sur Éphèse, alors que par ailleurs, il dit qu'il a été emprisonné et qu'il était gardé par des léopards. Une manière évidemment de parler, mais c'est joli. Hein. Comment je ne me dérobais en rien de ce qu'il importait de vous annoncer en détail, de vous enseigner en public et dans les maisons. Donc ce que saint Paul fait valoir ici, c'est la cohérence qu'il y a entre son activité et sa parole. Donc il s'efface en quelque sorte derrière la parole. Portant témoignage aux Juifs ainsi qu'aux Grecs de la conversion à Dieu et de la foi en notre Seigneur Jésus. Il semble que les deux termes sont bien choisis. Conversion, parlant pour les païens se convertissent. Et la foi en notre Seigneur, c'est vraiment la foi du juif qui doit s'accomplir en reconnaissant Jésus comme son Seigneur et Christ. Et maintenant, donc il a parlé du passé. Il faut toujours commencer par raconter le passé. Et ce passé est un passé commun. Vous souvenez. Donc on fait mémoire de ce qu'on a vécu ensemble. Et maintenant, voici. Me trouvant lié, moi, par l'Esprit. Vous vous rappelez que Jésus, nous l'avons vu, par trois fois, annonce sa passion. Eh bien, Paul, lui-même, par trois fois, nous n'avons pas vu tous les passages, mais par trois fois, annonce aussi sa passion. Donc, on veut montrer maintenant comment la montée de Jésus à Jérusalem et la montée de Paul à Jérusalem, en quelque sorte, coïncident. Ce que Jésus a fait, Paul le fait. Me trouvant lié, moi, par l'Esprit, je fais route vers Jérusalem, ne sachant pas ce qui en elle se rencontrera avec moi. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais j'ai quand même un pressentiment. Sinon pourtant, que l'Esprit Saint, dans chaque ville, vous voyez, le terme de ville revient, porte témoignage pour moi, disant que les liens et les tribulations m'attendent. Jusqu'ici, dans chaque ville où je suis allé, j'ai toujours trouvé l'évêque de grâce. Mais je ne fais aucun cas de ma vie et ne la tiens pas pour trop honorable pour moi-même. Pour que je consomme ma course, ça c'est bien un terme paulinien, pour que je consomme ma course, pour que je consomme ma course et le service que je reçus de chez le Seigneur Jésus. Alors, comment il parle de sa mission? Et effectivement, dans ce discours aux Éphésiens, on a repéré, je ne peux pas vous dire combien, parce que je n'ai pas le chiffre en tête, on a repéré quelques dizaines de termes précis et d'expressions qui reviennent dans l'Épître aux Éphésiens. Donc même le vocabulaire n'est pas un hasard. Et le service que je reçus de chez le Seigneur Jésus, de porter témoignage de la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle de la grâce, pour la manière de dire la parole de la grâce. Et maintenant voici, un deuxième, et maintenant voici. Moi je sais que vous ne verrez plus ma face, vous tous parmi lesquels je traversais en proclamant le royaume. Donc il devient un peu plus clair. Je sais que vous ne verrez plus ma face. Car je vous prends à témoin au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, que je suis pur du sang de tous. C'est-à-dire que j'ai pris mes responsabilités et que je n'ai fait vraiment de tort à personne. Car je ne me dérobais de vous annoncer en détail tout le dessein de Dieu. Donc j'ai pris vraiment la responsabilité de la part. Et à vous, prenez garde sans cesse à vous-même et à tout le troupeau dans lequel l'Esprit Saint vous a mis surveillant. C'est pas moi qui vous ai nommé, hein? C'est l'Esprit Saint qui vous a mis surveillant. Episcopoi, ce terme qui va donner épiscope, évêque, surveillant. Prenez garde sans cesse à vous-même et à tout le troupeau dans lequel l'Esprit Saint vous mis surveillant pour être berger sans cesse de l'Église. C'est peut-être ici la seule fois où l'Église est vraiment prise au sens global et unique de l'Église. Et cette expression est curieuse. On aurait pu parler de l'Église de Jésus, on ne dit pas l'Église qui est à Éphèse en tout cas, et l'Église de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Père en quelque sorte. Et cette phrase est insolite. Donc il y a vraiment dans ce terme une reconnaissance explicite de la réalité ecclésiale. Et alors, phrase aussi étrange, qu'il s'acquit par le sang de son propre. Le mot fils, que nous avons ajouté avec la tradition, est probable, mais on pourrait presque traduire qu'il s'est acquis avec son propre sang. Mais le sang de Dieu, le sang du Père, ça ne va pas. Ça fait bien sûr du sang de son propre fils. Mais l'expression elle-même désigne une proximité d'une intensité peu commune. C'est vraiment l'Église de Dieu, c'est comme la présence de Dieu au cœur de son Église, comme nous avions vu, comme Jésus présent dans le temple, c'était le temple présent en Jésus. Et ici nous avons vraiment cette Église de Dieu qu'il s'est acquise au prix de son propre sang. Moi je sais, je reprends. Maintenant, moi je sais que vous ne verrez plus ma face. Moi je sais que après ma venue, maintenant nous ne sommes plus dans le maintenant, c'est après. Donc le passé, le présent, et puis l'ouverture vers l'avenir, c'est toujours comme cela que se constitue un discours testament. Il y a une reprise de l'histoire passée ensemble, une détermination du présent, et puis une ouverture vers l'avenir. Moïse fait pareil quand il fait son grand discours testament, qui est le livre du Deutéronome. Il y a d'abord une reprise de l'histoire au désert, et puis il y a le maintenant, ce qu'est le peuple, et puis ce qu'il va devenir. Moi, je sais qu'après ma venue, des loups pesants viendront vers vous n'épargnant pas le troupeau. Et évidemment, dans l'Église que connaît Saint-Luc, il y a déjà des opposants, que ce soit maintenant des judaïsants ou d'autres. Et d'entre vous-même se dresseront des hommes parlant des choses perverties, pour entraîner des disciples derrière eux. C'est pourquoi soyez vigilants sans cesse, gardant le souvenir que 3 années durant nuit et jour, je ne cessais pas avec larmes donnant des avertissements à tout un chacun. Autrement dit, le témoignage que j'ai donné, rendez-le à votre tour. Vous savez que Paul, dans plusieurs de ses épîtres, nous dit une chose qu'on considère souvent comme si c'était une vantardise de la part de Paul. Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Comment un homme peut-il se proposer comme à imiter? Soyez mes imitateurs, mais il ajoute toujours comme je le suis. Donc essayez de découvrir dans le témoignage que j'ai rendu pour Christ une source de témoignage pour vous aussi. Pas en moi, mais vous avez un modèle, et donc vous pouvez essayer de vivre le même et de rendre le même témoignage au Christ que celui que j'ai essayé de mener. Et quant à maintenant, je vous remets à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous remets à Dieu et à la parole de sa grâce.